Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Sébastien Guyot.
10h30 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est déjà la deuxième mi-temps de ce débat des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Consacré donc à ces deux fêtes divers, terribles de la semaine. Une femme brûlée vive par son ex-compagnon à Mérignac près de Bordeaux et un policier tué par balle à Avignon. D'abord, les grandes voix, la mort d'Éric Masson, ce policier de 36 ans abattu lors d'un banal contrôle anti-drogue. La France est en deuil une nouvelle fois, disait Jean Castex hier en rendant hommage à ce père de deux enfants. Et voilà ce que disait Gérald Darmanin.
Le trafic de stupéfiants, c'est vraiment la mère des batailles contre la délinquance. Et je ne peux pas accepter, je le dis ici, de baisser les bras, parce que le président de la République nous a demandé d'être extrêmement ferme contre ce trafic de stupéfiants. Les résultats sont là. Les trafiquants ne gagneront pas. Et les policiers et les gendarmes, qui sont en deuil aujourd'hui, auront les moyens de continuer à lutter contre ces trafics.
De nombreuses réactions, on en a retenu une, celle de Marine Le Pen.
Un responsable politique, quand il est président de la République, a-t-il un pouvoir ou pas? S'il a un pouvoir, alors par définition, il devrait se sentir responsable de ce qui se passe. Ce qui est inadmissible de la part d'Emmanuel Macron, c'est de ne rien faire. C'est de ne prendre aucune mesure sérieuse pour mettre fin à cette situation.
Est-ce que les forces de l'ordre, les grandes voix, ont les moyens nécessaires pour lutter contre ces trafiquants? Ou au contraire, est-ce que l'État ne protège plus ces policiers, comme l'affirme Marine Le Pen, mais d'autres à droite ou le syndicat Alliance chez les policiers?
Non, c'est exagéré. Ce qu'elle vient de dire est exagéré. Si vous voulez, on est arrivé à une sorte de point de rupture parce qu'il y a une stratégie de harcèlement des dealers qui a été mise en place depuis quelques semaines. Et c'est la raison pour laquelle vous avez une situation éruptive, doublement éruptive. D'abord par rapport à la réaction justement de ces dealers, de ces bandes dans les quartiers, dont on peut dire tout ce qu'on veut, sauf qu'ils ont été désertés. Je vous rappelle une politique qui anticipe largement le quinquennat d'aujourd'hui, c'est de fermer toutes les annexes de commissariat dans la plupart des quartiers chauds, des quartiers qui quasiment, comme le disait le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ont quitté la République. Parce que c'est ça la situation. De dire qu'on n'ose pas, comme Darmanin, on n'ose pas aller dans tous les quartiers, c'était vrai. Et c'est vrai que justement parce qu'ils osent, à l'heure actuelle, les policiers, et tous ceux des offices centraux de répression contre la lutte des stupéfiants, parce qu'ils y vont, que ça provoque, si vous voulez, tous ces...
C'est ce que répétait le ministre de l'Intérieur dans Le Figaro, en disant que les forces de l'ordre vont où elles veulent aujourd'hui, il n'y a pas de zone de non-droit en France.
Ce sont ces opérations-là qui dérangent toutes les filières, tous les réseaux de connivence. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines simplement, dans le Val-de-Marne, on a trouvé un véritable dépôt de munitions et d'armes lourdes, notamment des fusils d'assaut, et aussi une réserve de drogue qui alimente toute la région parisienne. Il faut savoir que le 93, c'est le haut lieu du trafic de drogue dans la région parisienne et même en France. Et puis, le meurtre à bout portant du policier, si vous voulez, d'Avignon, intervient au moment où la situation dans les rangs de la police est éruptive. Et c'est ça aussi que l'exécutif doit prendre en compte.
Vous disiez... réaction exagérée de Marine Le Pen, il y a eu beaucoup de réactions dans toute la semaine, rhétorique guerrière pour le gouvernement, hypertrophie des mots, atrophie des actes, disait David Lisnard, le maire de Cannes. Vous êtes d'accord, Gérard Carrérou, avec cette analyse de Charles Villeneuve?
Le constat, c'est pas moi qui le fais, c'est tout le monde. C'est aussi d'ailleurs la pétition des militaires qu'on a évoquée la semaine dernière. Que ce soit le délitement évoqué par les généraux, tout le monde constate que dans un certain nombre de quartiers, mais pas seulement, on avait pendant l'habitude de dire c'est les quartiers sensibles. Ce n'est plus vrai. C'est vrai dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et maintenant même dans les petites villes, style Rambouillet et compagnie. Donc, et là, on voit effectivement Avignon et Mérignac, pour des raisons diverses, évoquées aussi. Donc il y a un problème. On ne peut pas dire que Darmanin ne fait rien, puisque c'est justement l'action, je dirais, violente, énergique des policiers dans un certain nombre de quartiers, qui provoque évidemment le réflexe contraire et effectivement qui fait qu'un policier est mort, je le salue.
Éric Masson.
Je dirais simplement un mot là-dessus. S'il n'y avait pas ce climat général, depuis 3 ans, de dénonciation de la police, il faudrait accompagner la police, l'accompagner pas seulement en lui donnant les moyens sur le terrain, mais l'accompagner psychologiquement. Dans ce pays, on a craché depuis 3 ans sur notre police. On l'a accusé de racisme systémique. Le président de la République a eu des paroles malencontreuses, abruptes. On a vu un certain nombre de faits et il ne faut pas s'étonner quand après on tire les flics dans la rue comme si c'était normal.
Michel Cotta, je vous vois réagir.
Oui,
et lever les bras.
Et moi non, tu vois.
Si,
pas.
Si, Catherine Ney aussi. Vas-y, Catherine. On vous écoute.
Non, mais moi, je veux rappeler des chiffres.
Face au micro, si vous voulez.
Ce qu'a dit l'Observatoire national de la délinquance, il y a 8719 policiers et gendarmes qui ont été blessés en mission cette année, dont au début de l'année, déjà 727 qui ont été touchés et certains gravement. Voilà. Derrière, vous voyez, c'est ça, les chiffres. Donc, et que peut,
les
bien
chiffres,
sûr,
ce sont hausse policiers et gendarmes morts en 2020 également.
Oui, donc vous voyez comment on peut faire. C'est-à-dire que les policiers disent aujourd'hui, on sait que l'uniforme, dès qu'on est en bleu dans la rue, on est déjà une cible. Et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est un pays qui est mité jusqu'à la caricature par la violence dans tous les coins de rue, où le trafic d'armes et tout ça, et ça explose. Oui, et donc, c'est une situation où on voit même, vous voyez, des gens à trottinette, en moto, qui font des voyous, qui embêtent les quartiers, qui rendent la vie impossible aux gens, il ne se passe rien.
Mais il y a aussi Michel Cotta, ces sociologues, qui nous disent qu'il y a une généralisation des faits divers et qu'une surexploitation des hommes politiques.
On voit bien qu'il y a une conjonction depuis 4 ans de 3 facteurs. Il y a d'abord, on a demandé aux forces de l'ordre de rétablir l'ordre pendant toute l'histoire des Gilets jaunes. Et on voit bien quand même tous les samedis, y compris samedi dernier, que c'est un boulot. Deuxièmement, le terrorisme existe encore. Et quand on voit ce qui s'est passé, et pour
à Rambouillet
et ailleurs et partout ailleurs depuis un an, il y a aussi le terrorisme. Alors on a tendance effectivement à l'oublier parce qu'il n'y a pas de grandes manifestations avec 100 personnes. Bon, et puis troisièmement, il y a maintenant cette affaire de la drogue. Alors est-ce que c'était moi la seule question que je me pose? Je vois bien que tout ça a été expliqué par la lutte des bandes qui d'un seul coup, donc il faut bien mettre de l'ordre. Il reste, je me pose quand même la question, est-ce qu'il fallait déclencher en ce moment la guerre contre la drogue? Je ne suis pas sûr.
Est-ce que c'est cette question-là?
Je ne suis pas au courant de tout.
Ou est-ce qu'il ne faut pas rester les bras croisés?
Est-ce que l'autre solution alternative, ce n'est pas de légaliser la drogue, comme certains l'avancent?
Pour moi, la question n'est pas seulement de se demander s'il faut renforcer les moyens des forces de sécurité intérieure. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est antérieur, si vous voulez, au quinquennat du président actuel. Ça a commencé depuis bien plus longtemps. Comment on rétablit la confiance dans les institutions et dans toutes les figures de l'autorité, à commencer par les parents, les professeurs d'école, les élus, les maires, les policiers, les gendarmes? C'est un phénomène profond de société, non pas de violence, mais d'extrême violence. C'est là le problème de fond. Et tous ceux qui sont au contact de cette violence vous le disent. Les sociologues, ils sont très gentils, mais ça a commencé depuis très longtemps de toute façon. Et ça continue. Et je trouve qu'il est normal d'aller, si vous voulez, exercer des coups de boutoir chez les dealers et dans les trafics de drogue. Parce que c'est ce qui sous-tend cette violence et c'est ce qui finance les armes.
Charles Villeneuve, je vous propose de poursuivre et d'avancer sur un autre fait divers tragique de la semaine. Cette mort de cette mère de famille brûlée vive en pleine rue par son ancien compagnon. Nous verrons si la justice a failli et quel arsenal juridique et préventif peut être mis en place pour éviter ces drames.
Europe 1, Sébastien Guyot.
10h41 sur Europe 1 avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Dans un instant, on va parler donc de ce fait divers tragique à Mérignac. Mais je voulais revenir quand même, on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, sur la légalisation des drogues douces pour mieux lutter contre les drogues dures. Est-ce que c'est une solution, Gérard Carrérou?
Pour moi, ce n'est pas une solution parce que ça voudrait dire... D'abord, je pense que c'est même trop tard pour imaginer aujourd'hui de légaliser le cannabis. La machine, si j'ose dire, est partie trop loin. Et je pense que si le pouvoir donnait le signal, certains députés le font, il y a même Éric Zemmour qui s'interroge aujourd'hui pour dire que c'est un débat sur lequel les gens se posent des questions, je pense que c'est trop tard. Et je pense que là, pour le coup, le pouvoir a raison de mener cette lutte contre les... C'est pas possible. Vous savez ce que c'est qu'un point de drogue? On l'a vu sur toutes les télés. On voit ce que c'est. Ça fout un quartier en l'air. Bon, et une jeunesse en l'air. Donc, il faut faire quelque chose. Mais le problème, c'est que c'est sûr que c'est... Il y aura des... il y aura des morts. Il y a eu un mort, il y aura d'autres morts. Il y aura des blessés graves parce qu'il faut que la police... Et moi, je suis de ceux qui disent, par exemple, en Amérique, la police, dès qu'un type est interpellé, on le plaque, vous voyez ça dans les films, on le plaque sur une bagnole ou on le plaque contre le mur où il lève les mains. En France, si on fait ça déjà, et si on dit si tu lèves pas les mains et si tu te laisses pas plaquer sur la bagnole, les flics ont le droit de légitime défense, si on commençait par faire des choses aussi simples que ça, on éviterait peut-être...
Aux États-Unis, il y a des dérives avec...
Oui, je ne dis pas que... Je vous ai pas dit que la police américaine était un modèle. Je vous dis qu'en Amérique, il y a des techniques pour éviter que des gens qui sont... qui vont être interpellés se rebiffent et se rebellent, il suffit déjà de les écarter.
Michel Cotta.
Non, mais sur la drogue, il y a un problème qui n'est pas seulement les 3954 points de drogue, ce qui est quand même considérable, mais il y a le problème de la consommation des Français aussi. S'il n'y avait pas tellement de consommateurs, il y aurait moins de dealers. Ça, c'est sûr.
5 millions.
Ça fait
beaucoup. 80%
et ça fait de la France, quand même un pays particulièrement exposé à ça.
Et d'ailleurs, pour
moi, je suis persuadé que la prohibition n'est pas la solution. Voilà. Maintenant, je ne sais pas comment il faut faire. Mais la prohibition ne sert à rien. Ça fait des années qu'on poursuit ces gens, plus ou moins, des années qu'on sait où ils laissent traîner. Il y a des ponts sur les ponts de Saint-Denis. On voit très bien là où les leaders passent, laissent un truc. Immédiatement après, un jeune homme passe et s'en prend et prend la dose. Bon, je crois que là, vraiment, il y a un problème. C'est un échec. Notre politique vis-à-vis de la drogue est un échec depuis la loi de 1970. Voilà.
Parce qu'il n'y a pas eu de tolérance zéro comme il faut dans un certain nombre de domaines.
Oui. Non, mais moi, je trouve que le président et le gouvernement est plutôt courageux de s'attaquer à un problème auquel aucun gouvernement jusqu'ici ne s'est attaqué. Donc, Gérard l'a très bien dit, ça veut dire qu'il y aura des morts, qu'on va gêner les dealers. Et que comme ils sont armés, c'est très dangereux pour la police. Voilà. Donc c'est courageux. Je ne sais pas. Bon, et la mesure qu'ils ont prise aussi, c'est de les dealers qui sont arrêtés par la police, ils ont une amende qui peut monter de 300 à 500 euros. Donc si des jeunes sont pris plusieurs fois et qu'ils doivent payer une amende, ça peut, c'est un début de dissuasion. D'accord. Mais ce qui est, pour Emmanuel Macron, quand il a annoncé qu'il s'attaquait à la drogue, il a dit que c'était le droit à la vie paisible. Or, justement, c'est le contraire qui se passe, parce que l'attaque et la surveillance des drogués fait que ça met le quartier en ébullition, qu'ils sont encore plus violents. C'est un moment de longue haleine pour le gouvernement.
Mais je pense que les petits dealers ne sont pas les gros, et que c'est les gros qu'il faut toucher. Ils sont au Maroc. Hein.
On va parler à présent, Michel Cotta, si vous le voulez bien, de Chahinez, cette femme de 31 ans, mère de 3 enfants, qui a été tuée, brûlée vive par son ex-compagnon. D'abord 2 balles dans les jambes avant de l'asperger d'essence, ce qui pose des questions sur les failles éventuelles de la justice, les grandes voix. L'homme était sorti de prison pour violence conjugale en décembre. Il l'avait déjà agressé en mars dernier et il avait enfreint une mesure de son sursis probatoire, ce qui a valu cette réaction hier soir d'Éric Dupond-Moretti.
J'ai demandé, vous le savez, avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, qu'une inspection soit diligentée pour que nous sachions exactement, précisément, si l'institution judiciaire, en ce qui concerne mon périmètre, a failli ou non dans cette affaire, et si c'est une réponse affirmative qui m'est apportée. Je veux vous dire de la façon la plus solennelle que je n'aurai pas la main qui tremble.
Il n'aura pas la main qui tremble, dit le garde des Sceaux qui était en déplacement hier à Rouen pour parler violence conjugale. En l'occurrence, l'ancien conjoint ne portait pas de bracelet anti-rapprochement. C'est une carence, c'est une faute, c'est une faille. Comment fait-on pour pallier ce problème ?
Écoutez, de toute façon, il y a pas mal d'invraisemblances dans cette affaire, notamment dont a été victime cette pauvre femme, cette mère de famille de 3 enfants. D'abord, premièrement, elle avait porté plainte contre une tentative d'enlèvement de son mari, qu'il avait déjà frappé. C'est un multi-récidiviste. Il a été condamné à une peine relativement légère avec sursis. Et surtout, il n'a pas été suivi. Il y a donc une enquête, notamment au niveau de la justice, mais aussi au niveau de la police. Parce que manifestement, entre l'administration pénitentiaire et les enquêteurs policiers, il n'y avait pas de lien.
Les informations ne se
parlaient pas. Donc, il y a une inspection aussi bien donc à deux niveaux, justice-police, justice-ministère de l'Intérieur, dont les résultats seront publiés, seront connus mardi. Mais il y a un certain nombre de négligences qui ont été commises, assez importantes. Et ce sont ces négligences-là qui vont être établies.
Gérard Carrère.
Oui, moi je vais prendre un point et au risque de choquer un certain nombre de gens qui m'entendent, qui m'écoutent, je dirais que dans l'analyse qui doit être faite de ce fait divers, aussi bien ce dont vous venez de parler, ce dont Charles vient de parler, Michel, c'est-à-dire de savoir s'il y a eu des failles entre le judiciaire et la police. Je voudrais quand même qu'on regarde de près ce qui s'est passé dans cette famille. Il s'agit d'une femme et d'un homme qui sont effectivement des musulmans et effectivement, tout le monde doit, à un moment ou à un autre, s'interroger sur le comportement dans un certain nombre de communautés à l'égard des femmes. Cette femme, on parle de lapidation des femmes dans certains pays. Hein, ça arrive encore aujourd'hui. Là, cette femme, on avait l'impression presque d'un rituel. Elle a été abattue, coup de revolver ou de carabine dans les jambes, après quoi on l'a pas...
Bon, après, malheureusement, il n'y a pas que des femmes.
Je veux dire par là qu'il y a eu aussi l'action de la famille. On a dit, oui, mais cette femme, elle voulait sortir, elle a porté plainte, elle voulait partir. Mais la famille les obligeait quelque part. Je voudrais qu'on fasse une enquête de fond sur ça pour savoir si des gens qui sont en France respectent effectivement la façon de vivre de la France dans tous les domaines, y compris quand il s'agit des femmes.
Après, les 39 féminicides depuis le début de l'année ne sont pas que à l'encontre de femmes.
Je sais, mais
il y a eu un témoignage hier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter un témoignage d'une amie de cette femme disant et évoquant directement, effectivement, la religion. C'est-à-dire en disant, dans une religion... La femme appartient au mari et par conséquent, c'est très difficile, évidemment. La famille a joué là-dedans. Bon, il faut effectivement voir que souvent, il y a des affaires de religion derrière. Voilà, c'est effectivement peut-être dérangé, mais il y a des affaires de religion derrière et de, au fond, de respect de la loi de la République. Voilà, on en revient toujours là.
L'affaire de Mérignac, de toute façon, en est une. Ça illustre parfaitement ce qu'un certain nombre de gens, notamment qui appartiennent à cette religion, considèrent, c'est que la femme ne vaut que la moitié d'un homme. Alors, c'est exactement le système de l'héritage, notamment dans les pays d'Afrique du Nord, y compris au Maroc. En Tunisie, dernièrement, l'Assemblée nationale, avant que le président ancien ne décède, avait voté à la majorité le fait que la fille était, après le décès d'un père, à égalité avec le fils, eh bien, cette loi a été annulée.
Ah oui.
Il conviendra quand même de regarder quand même sur le nombre de féminicides.
Et
de
ne pas généraliser,
absolument.
On n'a pas généralisé, mais ça doit être noté.
On marque une pause, les grandes voix, et on aborde le dernier débat sur les vaccins et la levée des brevets dans un instant.